Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Dominique Vidal, journaliste, historien, qui vient de publier aux éditions L'Armatin de l'IREMO, qu'il co-préside, Israël, naissance d'un État, 1948-1949. Dominique, bonjour.
Bonjour.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pape a parlé d'une spirale de la mort, parce qu'on ne peut pas parler d'une reprise des violences qui n'ont jamais pris fin, mais que donc de nouveau Israël, qui pensait avoir la paix avec les Palestiniens, à défaut de la signer, est sur le devant de l'actualité et que le conflit israélo-palestinien ressurgit.
Je vais vous dire franchement, mais vous le savez, personnellement, cette spirale ne me surprend pas. Ça fait des mois que j'ai mis en garde contre le fait que la victoire du bloc de Netanyahou avec des alliés suprémacistes, racistes, homophobes, ça allait produire des catastrophes. On y est. On y est avec les Palestiniens. 37 morts en un mois, même pas. Du coup, on y est aussi avec les Israéliens. 7 morts devant une synagogue, bon, dans une colonie, mais ce sont des fidèles qui sortent d'un service religieux. Donc on est dans quelque chose de très grave, mais qui peut aussi s'aggraver par l'ambition que Netanyahou a affirmée de mener une opération contre l'Iran. Donc on a
avec
le risque
des attaques de drones qui se sont produites ce week-end.
Absolument. Donc on a le risque d'une troisième intifada sous une forme sans doute nouvelle. Mais il faut noter que les Palestiniens, certains en tout cas, ont repris le chemin des armes. Et puis, on a le risque d'une conflagration avec l'Iran, qui, elle, pourrait avoir des conséquences régionales. Donc, on est vraiment devant un danger que ce gouvernement incarne.
Mais alors, est-ce que c'est un nouveau gouvernement? On dit que c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Est-ce que c'est un glissement à droite ou est-ce que c'est une rupture?
J'aime pas la formule « le plus à droite », c'est vrai, bien sûr. Parce que ça dissimule le saut qualitatif qui a été fait. Vous avez d'abord un Likoud radicalisé, par rapport à ce qu'il était il y a 20 ans. Ce n'est plus le Likoud de Begin ou de Shamir. Vous avez des ultra-orthodoxes décidés à imposer une forme de théocratie, et d'une manière extrêmement brutale. Et vous avez, je l'ai dit, trois partis suprémacistes, je le répète, juifs, bien sûr, racistes et homophobes, qui, de surcroît, ont obtenu des postes importants.
Itamar, les forces de l'ordre.
Itamar Ben-Gvir est ministre de la Sécurité nationale. Le poste a été créé pour lui. Avant, c'était Sécurité intérieure. Et Bezalel Smotrich est ministre non seulement des Finances, mais en charge de la Cisjordanie. Et vous ajoutez Maoz, qui est moins connu, mais qui est ministre de l'identité nationale juive. Vous voyez, le trio est quand même un trio que Ehud Barak, vous admettrez avec moi que ce n'est pas un islamo-gauchiste, a qualifié de fasciste. Barak a parlé de gouvernement fasciste.
Ben-Gvir s'était signalé en voulant attaquer la voiture de Rabin, il s'était félicité de son assassinat.
Il a attaqué la voiture, il est venu à la télévision quelques jours avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin avec la plaque minéralogique, et il a dit « on a eu la plaque, on aura le bonhomme ». Il a été condamné à plusieurs reprises, il a fait de la prison. L'armée l'a refusé parce qu'il était trop dangereux. Il se réclame du rabbin Kahan, rabbin fasciste, alors lui, sans aucun doute. Et vous avez quand même, c'est aussi important de le signaler, un homme qui, sur son bureau, jusque quelques semaines avant les élections, avait le portrait de Baruch Goldstein, ce colon de Kiryat Arba à Hébron, qui avait assassiné en 1994 29 fidèles en prière. Donc vous voyez, c'est un héritage extrêmement lourd que Netanyahou a intégré, à la fois parce qu'il n'a pas de grande divergence avec eux, je le pense, mais aussi parce qu'il veut tout faire pour échapper à la prison.
Comment vous expliquez, Dominique, ce glissement ou cette rupture, puisque, enfin, ce changement, comment la société israélienne a pu en arriver à avoir un gouvernement de ce type, ce qui est en rupture avec les idéaux du sionisme?
Bon, on est dans une situation coloniale. C'est la première chose qu'il faut dire. Et dans toutes les situations coloniales, les opinions sont manipulables. On l'a su nous-mêmes pendant la guerre d'Algérie, pour ne pas remonter à la guerre d'Indochine, que je n'ai pas connue, bien sûr. On avait une opinion qui ne s'est réveillée que très tardivement. Rappelez-vous, le 17 octobre 61, plusieurs centaines d'Algériens assassinés par la police du préfet Papon. Il n'y a pas eu beaucoup de protestations. Il a fallu, quelques mois plus tard, l'assassinat de 9 Français à Charonne, pour que la manifestation d'enterrement qui a assemblée, on disait à l'époque 1 million de personnes, peu importe le chiffre, contraignent De Gaulle à aller plus vite sans doute que prévu et à signer le cessez-le-feu avec le FLN. Donc là aussi, c'est une opinion qui est manipulée par un conflit dont on lui dit qu'il est existentiel, que après la Shoah, ce sont les Arabes qui veulent exterminer les Juifs en Israël. J'ajouterais quand même, pour ne pas rentrer dans des explications trop vagues et théoriques, qu'il y a un point commun, à mon avis, entre la situation d'Israël, le 1er novembre dernier, et d'autres situations où les populistes l'ont emporté ou bien ont effectué des percées importantes. Ce point commun, c'est l'absence d'alternative. J'aurais tendance à dire, parlant d'Israël, mais parlant aussi des autres cas, que le vrai problème, c'est moins la droite et l'extrême droite que la gauche.
Mais comment expliquer ? Il y avait autrefois un tissu, un mouvement de la paix qui était très très fort dans les années 80 d'Israël, qui a d'ailleurs poussé Israël à faire des concessions par rapport aux Palestiniens, un accord de paix. Il y a des les ONG sont maintenant finalement minoritaires, sont marginalisées.
Minoritaires, elles l'ont toujours été. Mais c'est vrai qu'il y avait un camp de la paix, comme on disait, beaucoup plus actif, et qui comprenait non pas seulement le secteur, disons, anticolonialiste, celui qui a une vision extrêmement claire de la réalité coloniale, mais aussi la gauche sioniste, ce qu'on appelait la paix maintenant, des gens proches du Parti travailliste, du Meretz, etc. Tout ça existe toujours, mais marginalisé, avec, il faut bien le mesurer, une très longue progression vers la droite et l'extrême droite. Netanyahou a été élu pour la première fois Premier ministre en 1996, c'est pas hier, et depuis 2008, il domine complètement la vie politique israélienne, et il a entraîné les Israéliens là où il voulait. Mais encore une fois, si vous regardez le score, les scores du 1er novembre dernier, vous allez voir que l'élection s'est jouée à très peu de voix. C'est-à-dire le bloc des anti-Netanyahou, alors qui est très hétérogène, n'est pas très loin en termes de voix du bloc de Netanyahou. Sauf que, et c'est ça qui compte, la gauche sioniste s'est divisée, le Meretz et le Parti travailliste n'ont pas trouvé d'accord, si bien que le Meretz n'est même pas au Parlement.
Le parti le plus à gauche, sioniste le plus à gauche, c'est la politique israélienne.
Et les partis arabes se sont divisés, au point que l'un d'eux, le parti Balad, qui est un parti nationaliste, n'est même pas lui non plus représenté. Donc vous avez une gauche à la fois divisée et discréditée par la caution qu'elle avait apportée pendant un an au gouvernement de Bennett et de Lapid. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes travailliste ou Meretz, dire « je soutiens Bennett et Lapid » quand Lapid font la même politique que Netanyahou. Il y a là quelque chose qui a tué la gauche et elle s'est, suicidée en se divisant.
Mais les protestations sont plutôt sur les menaces sur la démocratie interne israélienne, sur les remises en cause de l'indépendance de la justice. Il n'y a pas tellement de protestations sur un éventuel accord de paix avec les Palestiniens.
Disons que le centre, le cœur des protestations, on a vu quand même jusqu'à 130 000 manifestants entre Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa. 130 000 manifestants en Israël, c'est l'équivalent de 900 000 chez nous. C'est pas quelque chose de secondaire. Moi, j'ai l'impression qu'une partie de l'électorat israélien a la gueule de bois. C'est-à-dire, ils ont voté pour cette droite ou cette extrême droite, ou bien ils l'ont laissé passer, et maintenant ils se disent, où va-t-on ? Parce qu'il n'y a pas que les manifs. Les manifs, c'est important, mais il y a aussi 4 sondages en l'espace d'un mois, même pas, 3 semaines. Un sondage qui nous dit, s'il y avait à nouveau des élections, Netanyahou aurait 58 sièges sur 120, donc non plus 64, plus de majorité. Un sondage qui nous dit, Netanyahou a donné trop de concessions à ses alliés ultra-orthodoxes et suprémacistes. Un autre sondage qui nous dit il faut pas toucher à la Cour suprême, pas toucher à ce dernier garde-fou de la démocratie. Et un sondage, on touche à la question que vous me posez, j'y arrive, qui dit il faut négocier avec l'autorité palestinienne. Donc on a quand même quelque chose d'assez confus qui, oui, c'est vrai, tourne autour de la défense de la démocratie, essentiellement, mais tous mes amis que j'appelle en Israël, les collègues journalistes d'Haaretz avec qui je suis en rapport, me disent « c'est plus compliqué que ça ». C'est-à-dire, il y a beaucoup de drapeaux palestiniens interdits aujourd'hui, par la loi. Il y a des groupes qui disent « il faut arrêter l'occupation pour arrêter le massacre ». Et d'ailleurs…
Parce que n'est-ce pas ça, en fait ? Est-ce que c'est pas la poursuite de l'occupation qui conduit, si vous occupez un autre peuple, vous allez forcément lui nier l'égalité. Vous allez forcément avoir des sentiments de domination.
Vous avez raison, mais si vous voulez, là, ce qui se passe avec ce nouveau gouvernement, ça n'est pas le statu quo de la droite traditionnelle. C'est un pas qualitatif, puisque Ben-Gvir, Smotrich, Maoz, mais une partie des ministres du Likoud et une partie des dirigeants ultra-orthodoxes disent il faut annexer, il faut transférer les Arabes. Mesurez, par exemple, qu'un Smotrich ou un Ben-Gvir ont demandé l'interdiction des partis arabes israéliens. Ont proposé de retirer la citoyenneté aux Israéliens déloyaux. Alors j'ai été voir parce qu'on m'a dit c'est pour les Arabes, pour les Palestiniens. Non, non, non. Smotrich a donné deux exemples. Celui d'Eyman Odeh, qui est un député dirigeant du Parti communiste et de la liste ex-Unie, mais il a donné aussi le nom d'un député juif, Ofer Kassif. Donc on est dans vraiment une menace d'évolution fascisante des institutions israéliennes. Alors, dans une situation comme celle-là, évidemment qu'il n'y a pas de surprise, c'est ça que je voulais dire en démarrant. Vous savez qu'il y a eu 36 ou 37 morts à ce jour.
En moins d'un mois.
En moins d'un mois. Évidemment que des jeunes Palestiniens, qui apparemment, pour ce qui est de celui qui a commis l'attentat, injustifiable, inadmissible, devant la synagogue de la colonie de Neve Yaakov, c'est un jeune de 21 ans, jamais fiché.
Pas politisé.
Aucun rapport avec aucune organisation politique, mais dont le grand-père a été tué par un colon. Donc quand il a vu la tuerie de Jenin, 10 morts en une journée, il a pris sa voiture, il a été... Et c'est pas, à mon avis, hélas, la seule fois où ça va se produire. On a une telle accumulation de barbarie, pour dire les choses par leur nom, du côté de ce qui se passe en Cisjordanie, quand l'armée israélienne intervient, qu'on va vers des formes extrêmement brutales. On se souvient de la seconde intifada. Enfin.
Pendant des années, en fait, le monde extérieur n'a rien dit par rapport à cela. Là, on commence à dire, à appeler à plusieurs retenues. Est-ce que la solution des deux États est encore viable?
Moi, mon constat, personnellement, comme journaliste, j'entends là, et comme historien, c'est que depuis 10 ans, la solution des deux États est en chute libre. Quand on va parler avec les jeunes Palestiniens, personne n'y croit plus. De même qu'on ne croit plus ni au Fatah, ni à l'autorité palestinienne, ni au Hamas. Rappelez-vous.
Oui, les Palestiniens n'ont pas de leader, ils sont complètement déconsidérés.
Ils en ont un qui est en prison, qui pourrait être un leader.
Barghouti.
Mais les autres, rappelez-vous pendant le printemps 2021, ce qu'on a appelé le printemps palestinien, quand il y avait eu cette révolte à Jérusalem, puis dans les villes mixtes, les échanges de missiles avec le Hamas, les bombardements sur Gaza, mais aussi des événements en Cisjordanie, il devait y avoir des élections législatives, présidentielles. Abbas a préféré les reporter avec l'accord d'Israël, bien sûr. Le résultat, c'est que les gens sont frustrés de leur droit de choisir leurs dirigeants. Donc c'est ça aussi qui explique que pas partout, mais dans telle ou telle ville, je pense à Naplouse ou à Jenin, un certain nombre de groupes de jeunes qui ne répondent pas aux appels de tel ou tel parti, autonome, je le répète, recourent à la lutte armée. C'est quand même la première fois depuis la seconde intifada, c'est-à-dire depuis 2005, qu'on a cette tentation. Elle n'a pas de sens stratégique. On imagine bien que...
Elle est sans espoir.
Elle n'a pas d'espoir. Mais elle est justement l'expression du désespoir. Il n'y a plus de perspective politique. Les deux États, c'est mort. La communauté internationale regarde vers l'Ukraine. Bon, elle ne regardait pas la Palestine avant non plus. Mais l'Ukraine sert un peu de prétexte pour ne pas s'occuper des autres conflits, d'ailleurs. On pourrait dire le Yémen. On pourrait dire, enfin, je veux dire, il n'y a pas que les Palestiniens qui souffrent.
Et aussi avec cette différence de ne pas accepter l'acquisition de territoire par la force dans un cas et de fermer les yeux dans l'autre cas.
Oui, c'est assez symptomatique quand même, quand on y réfléchit, que les gouvernements israéliens, là j'inclus Bennett et Lapid, et bien sûr celui-là, soient aussi pro-russes. Bon, ils sont en train de mettre un tout petit peu d'eau dans leur vin ou dans leur vodka. Mais disons que depuis le début, ils ont condamné à l'ONU l'invasion de l'Ukraine, bien sûr, mais ils n'ont pas appliqué les sanctions contre la Russie. Ils n'ont rien fait pour aider l'Ukraine. Même le dôme de fer, on aurait pu dire, c'est une arme défensive. Ils auraient pu fournir le dôme du fer, qui montrait son efficacité relative, mais quand même, ils ne l'ont pas fait. Et même les réfugiés ukrainiens qui ne sont pas juifs ne sont pas admis en Israël. Donc, cette position-là, quand on y réfléchit, bien sûr qu'il y a de la tactique là-dedans. Bien sûr que Poutine laisse Netanyahou bombarder les Iraniens en Syrie quand il veut. C'est sûrement un avantage. Bien sûr que l'argent des oligarques juifs qui sont citoyens israéliens compte pour beaucoup dans l'économie israélienne. Mais il y a quand même une similitude de position. C'est-à-dire, les Russes considèrent qu'ils ont le droit d'occuper une partie de l'Ukraine, les Israéliens considèrent qu'ils ont le droit d'occuper les territoires palestiniens.
Est-ce que ce nouveau gouvernement ne risque pas de remettre en cause les victoires diplomatiques d'Israël ? Je pense notamment aux accords d'Abraham et puis aussi le lien avec les États-Unis où la communauté juive commence un peu à se sentir moins à l'aise avec ce gouvernement.
Alors, il faut je crois, pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est des problèmes distincts. Ce qui est notable, c'est que la brutalité, encore une fois, de la répression israélienne ces derniers jours dans les territoires occupés, en Cisjordanie, à Jérusalem, mais aussi la visite provocatrice d'Itamar Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées, qui remet en cause ouvertement le statu quo de 1967. On peut y revenir, si vous voulez, si les gens ne comprennent pas bien cette affaire de statu quo. Mais en tout cas, ces deux aspects-là ont déjà des répercussions dans le monde arabe. C'est-à-dire parmi ceux que Netanyahou se targuait d'avoir rallié d'une certaine manière à la cause israélienne, à la cause d'une paix sans les Palestiniens, eh bien, on a vu la Jordanie protester, on a vu même le Maroc protester, on a vu les Émirats protester. Netanyahou n'a pas pu faire le voyage prévu aux Émirats et il n'a pas pu non plus, comme il l'espérait, aller en Arabie Saoudite. Et le ministre saoudien des Affaires étrangères a fait une déclaration très étonnante, celle-là, en disant « nous ne signerons pas, nous ne normaliserons pas tant qu'il n'y a pas de solution du problème palestinien, c'est-à-dire, ajoute-t-il, un État ». Donc, c'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord avec cette analyse, les accords d'Abraham ont du plomb dans l'aile. Côté américain, je serais beaucoup plus prudent. Ce qui est sûr, c'est que, et ça mon collègue et ami Sylvain Sipel l'a montré souvent, parce qu'il connaît très bien les États-Unis, il y a vécu comme rédacteur en chef du Monde, correspondant pendant des années, il montre, je préfère le citer, je trouve ça la moindre des choses, quand on a un confrère qui apporte de l'analyse solide, il montre, sondage à l'appui, que d'année en année, la majorité aujourd'hui de la communauté juive américaine, c'est quand même 6 millions de juifs, c'est presque autant qu'en Israël, condamne la politique de Netanyahou et de Trump à l'époque. Il y avait une espèce de duo de condamnation, on condamnait à la fois Trump et Netanyahou. Chez les jeunes, c'est encore plus net. Je vous donne juste un sondage pour ne pas en multiplier. Plus de 40% des jeunes juifs américains considèrent que c'est de l'apartheid, ce qu'il y a en Israël et en Palestine. On est quand même devant quelque chose. Alors, est-ce que ça va avoir de l'effet sur la Maison-Blanche, l'administration Biden ou une autre d'ailleurs ? À court terme, j'en doute. Encore que, il vient d'y avoir une délégation du Congrès américain en Israël, une délégation bipartisane, donc démocrate et républicain. J'ai observé qu'ils ont fait une chose inouïe dans les annales diplomatiques. Ils ont dit « on vient, mais on ne veut pas voir Ben-Gvir ni Smotrich ». Pas des choses habituelles. Évidemment qu'ils avaient vu Anthony Blinken avant de partir. Donc il y a quand même des signes de mauvaise humeur. Sans parler du risque d'une déflagration avec l'Iran, ça, les Américains ne le souhaitent pas, pour des raisons que vous expliquez vous-même très bien. Le vrai problème des Américains, c'est que l'Iran, et ce qui dépend de lui, dans la région, il y en a pas mal quand même, ne bascule pas du côté chinois. C'est vraiment une question importante. Donc, à court terme, je ne vois pas Biden se lancer dans des grands discours, même de style Obama, encore qu'Obama n'a fait que des discours.
Oui, il n'a pas agi, en réalité.
À long terme, c'est une vraie question. Parce que si les présidents américains, quels qu'ils soient, surtout démocrates, sentent que l'ex-lobby pro-israélien s'est disloqué, que la majorité des juifs n'est plus partisane de cette politique, alors...
Et est-ce qu'en Europe, et notamment en France, il peut y avoir également des répercussions par rapport à l'attitude du pays et de la communauté vis-à-vis de ce nouveau gouvernement ?
Dans l'opinion, certainement. Moi, je sens, et on le sent en France, regardez les sondages de l'IFOP, enfin, sur de longues années, on sent que la masse des Français ne soutient plus cette politique. Enfin, de mémoire, 80% des Français disent on a une mauvaise image d'Israël. C'est quand même des chiffres importants. Mais c'est vrai que ça ne bouge pas au plan politique. Alors, j'ai une théorie, personnellement. Je vous la livre, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'en France, nous avons un cas particulier, parce que la grande masse des Juifs ne sont pas juifs au sens traditionnel du terme, ne sont pas religieux, ne sont pas engagés dans des associations communautaires, ne sont pas membres du CRIF. Vous savez, le CRIF, lui-même d'ailleurs, ne revendique pas plus que 100 000 Juifs. Et à mon avis, c'est un peu gonflé comme chiffre. Or, en France, on en a 700 ou 800 000, si on a une définition républicaine du judaïsme. C'est-à-dire si on n'est pas dans la définition rabbinique de la mère, etc. Beaucoup de juifs français sont mariés avec des non-juifs. Enfin, je veux dire, on est depuis la guerre, les choses ont évolué, les mariages mixtes sont nombreux, pas seulement entre juifs et non-juifs. Donc, quand on regarde cette population, elle ne se sent pas aussi concernée qu'on le croit par le conflit. Donc, ce qu'on entend, c'est le CRIF, les associations qu'il représente, disons quelques dizaines de milliers de juifs français, mais les autres, on ne les entend pas. Ou alors, on entend des individus. Mais quand, je prends des noms qui nous sont familiers, Morin, ou Esther Benbassa, ou Jean-Christophe Attias, ou etc., s'expriment, on ne dit pas « ce sont des juifs qui sont hostiles à », parce que eux n'affichent pas leur judaïté, c'est pas dans la tradition, moi non plus d'ailleurs. Si on me traite d'antisémite, oui, je trouve ça ignominieux.
Vous l'êtes régulièrement.
Ça m'arrive qu'un certain nombre de gens, sur Twitter surtout, qui est un lieu quand même de désagrégation intellectuelle et morale assez nette. Mais bon, disons que quand on me traite d'antisémite, c'est un peu grotesque, pour ne pas dire stupide. Enfin, mon père...
Une partie de votre famille a disparu dans les camps.
Ah ben, j'ai 14 membres de ma famille paternelle qui sont morts à Auschwitz, et mon père en est revenu. Donc, je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que le chantage à l'antisémitisme joue énormément. Vous avez eu, il y a quelques jours, l'affaire de Lyon. L'affaire de Lyon est incroyable quand on y pense. Voilà un maire qui organise une table ronde sur le bilan des accords d'Oslo. Il y invite, entre autres, Salah Hamouri. Levée de boucliers, d'abord de l'extrême droite, et ensuite relayée par le CRIF. Notamment le nouveau président du CRIF, Jonathan Arfi, qui n'a visiblement aucun point commun avec ses prédécesseurs tels que Théo Klein ou Henri Hagenberg. Je rappelle, par exemple, peut-être les gens vont être surpris en l'écoutant, qu'Henri Hagenberg, président du CRIF, avait été au Caire saluer Yasser Arafat et discuter avec lui. Imaginez les successeurs allant discuter avec Arafat quand il était vivant, ou même avec Abbas aujourd'hui. Donc, on est quand même dans une évolution nette. Donc, que dit Arfi, relayant l'extrême droite? Il dit, Salah Hamouri a voulu tuer le rabbin, le grand rabbin séfarade à l'époque. C'est un mensonge, tout le monde le sait. C'est une invention des services israéliens, du Shin Bet. Et Salah Hamouri, qui n'est pas plus bête que personne, il a dit, écoutez, le plaidé coupable, c'est une tradition israélienne, puisque Israël est de droit anglo-saxon. Il a plaidé coupable, il a eu comme ça 7 ans au lieu de 14. Il ne savait pas qu'on allait lui rajouter des mois et des mois et des mois de détention administrative parfaitement illégale, hein, aux yeux du droit, en tout cas, international. Bref, mensonge sur Salah Hamouri. Et on y rajoute une chose ignoble, alors. On dit que le même maire, en invitant Salah Hamouri, a en même temps suspendu un voyage de lycéen à Auschwitz. Celui qui a inventé cette affaire, ou qui a cru qu'elle était vraie, je ne sais pas, qui n'est pas lui non plus un islamo-gauchiste, il s'appelle Claude Veil, immédiatement reconnaît qu'il s'est trompé, s'excuse auprès du maire. Rien n'y fait, la campagne contre le maire continue, et finalement, il renonce à sa table ronde.
Et l'annulation du voyage, c'était parce que c'était pour ne pas aller à côté de la guerre en Ukraine.
Raison de sécurité, et pas seulement pour ce voyage, mais beaucoup d'autres, tout ce qui est à proximité de l'Ukraine est aujourd'hui interdit. C'est remplacé absolument par un voyage où les lycéens allaient au Struthof. Bon, le Struthof, c'est pas Auschwitz, bien sûr, mais enfin, c'est un des lieux de mémoire où on peut aider les lycéens à mesurer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça pose un problème, au-delà du caractère scandaleux de la diffamation du maire de Lyon, qui ne mérite pas, Grégory Doucet, je crois, ne mérite pas ce genre d'attaque. C'est, qu'est-ce que veut Jonathan Arfi ? On a, président du CRIF, on a un cliché antisémite bien connu qui veut que les Juifs se tiennent les coudes et essayent, comme un lobby, de défendre leur politique et de l'imposer à la République. On a combattu combien de fois cette idée ? Mais Jonathan Arfi l'alimente. Il se comporte comme le chef d'un lobby qui ment pour imposer l'annulation d'une conférence. Enfin, je veux dire, comment le CRIF peut-il en arriver là ? Le CRIF a une fonction, comme d'autres organismes communautaires, mais cette fonction ne peut pas être d'imposer ses vues à la République, que ce soit le gouvernement, le président ou les municipalités. Il y a là quelque chose de profondément choquant. Comme j'entends, ni comme juif, ni comme journaliste, ni comme historien, comme citoyen simplement. C'est choquant.
Pour conclure, est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir ? Est-ce que vous voyez une possibilité quand même que les violences ne soient pas dans un engrenage qui devienne incontrôlable ?
Si personne ne bouge, et en particulier si la France et l'Union européenne ne font pas quelque chose, et quelque chose, c'est des sanctions, parce que l'impunité alimente cette escalade. Non. Les perspectives de changement, elles se trouvent en Israël même, avec cette opposition qui se manifeste avec beaucoup de force. Elles se trouvent aussi du côté palestinien, parce que l'opération de Jenin, on nous a dit, avait pour but d'empêcher un attentat. Le résultat, elle en a provoqué un. Donc, ce genre de logique n'a pas grand sens. Hein. C'est la logique de Jabotinsky qui, en 1923, écrivait un article qui s'appelait « Le mur de fer ». Le mur de fer, ça voulait dire « on écrase les Palestiniens, quand ils seront écrasés, on pourra traiter avec eux ». Mais cette politique-là, qui est au fond la politique qu'ont suivi à peu près tous les dirigeants israéliens depuis la création de l'État, mais en particulier depuis 1967, elle ne fonctionne pas, on le voit bien. Enfin, l'expérience d'un siècle de conflit le montre. Donc, il y a là quelque chose qui est important, Israël, Palestine, et puis il y a cette espèce de paradoxe. Parce que quand on parle de la communauté internationale, on mesure mal qu'il y a un fossé entre la communauté internationale qui s'exprime à l'ONU, quand on vote, à froid, j'entends. Le dernier vote, par exemple, vous connaissez la résolution qui est votée chaque année en Assemblée générale, le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à un État. Le dernier vote, en décembre 2022, il n'y a plus que 4 États qui votent avec Israël contre cette résolution. De grands États, comme les États-Unis, des États nettement moins grands, comme les îles Marshall, la Micronésie et Nauru. Vous en connaissez beaucoup des pays coloniaux, qui entendent défendre les territoires qu'ils ont colonisés et qui n'ont plus que 4 partisans.
Mais les autres pays ne font pas grand-chose.
Alors, c'est ça que je voulais dire par le fossé, c'est que d'un côté, on vote, tant mieux, à l'ONU, on vote clairement. On a même demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer, ça n'a pas fait plaisir aux dirigeants israéliens. Mais d'un autre côté, les discours de l'ONU ne se traduisent pas en actes. Or, la vraie question, ce sont les actes. On le sait par l'exemple, pour terminer, de l'Afrique du Sud. C'est pas pour comparer apartheid, peu importe. Ce qui importe, c'est que quand on regarde l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est à partir du moment où il y a eu des sanctions de grandes multinationales, des sanctions étatiques, que les choses ont permis de surmonter un conflit terrible pour arriver à une solution pacifique. Alors il fallait Mandela et il fallait de Klerk. Là, on n'a ni l'un ni l'autre.
Merci Dominique Vidal. Je renvoie à la lecture de votre dernier livre, Israël, naissance d'un État aux éditions L'Harmattan. Et puis, toujours utile, antisionisme égale antisémitisme, que vous avez publié il y a maintenant 2 ans.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation, bien sûr, aux éditions Libertalia.
Merci.